Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Hello.
Le commentaire de
Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
Salut Danny.
Allô?
Hey, on commence tout de suite avec une petite mise au point parce qu'on s'est fait pogner. On est une méchante gang par ailleurs à cette fête pognée. Hier, on a parlé ensemble de ce qu'on a surnommé l'Espresso Gate. Mais là, petit rappel, là, je t'ai envoyé un article du journal Métro avant hier soir en disant ça serait bien qu'on parle de ça parce qu'on le sait, nous deux, on rage souvent avec la police de la langue française là, qui se promène dans les restaurants et qui exige des restaurateurs de traduire certains termes au menu. Et hier, on discutait ensemble d'un agent qui aurait demandé à un restaurateur de traduire espresso sur son menu. C'était espresso et granita, hein? C'est-tu ça?
Tout à fait.
Bon, et là, finalement, il y a des journalistes qui se sont mis sur le cas, puis ça aurait l'air que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'espresso gate.
OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est ramassé dans un journal sérieux comme le Métro?
Ben là, tu leur poseras la question. Moi, je m'embarque pas là-dedans. Mais tu sais.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais est-ce que ce restaurant. Ben là, écoute, moi, je me suis posé la question justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'article a été retiré depuis ce temps-là, là, mais. Est-ce que ce restaurateur-là en a beurré une couche pour attirer l'attention des médias? Parce que à l'office, ce qu'on dit, c'est espresso, ça fait partie de leur terminologie. Granita aussi, donc il n'y avait rien pour écrire à sa mère et encore moins pour se déchirer la chemise dans les médias, là.
Ben moi, j'ai l'impression que notre discussion qu'on a eue hier, là, ben, on payait au suivant.
Oups.
Donc, je pense la même chose, malgré le fait qu'on se soit enflammé un petit peu. C'est pas le temps d'écœurer des restaurateurs. Là, on a trouvé un vilain qui a peut-être triché un brin, mais ça s'est déjà vu, ça va se voir encore, donc ce n'est que partie remise.
Oui, parce que le Pastagate, lui, a bel et bien existé, là, hein? On s'en rappelle.
Oui, puis tu sais, on estime du monde à cause du mot dumpling, puis on leur force à écrire ravioli de pâte à la chinoise.
Des petite poche fourrée.
La petite poche fourrée, toi. Mets la main dans ta petite poche et fais quelque chose avec ça.
Ah, bon, fait que Espresso Gate, ça c'est beau, ça c'est réglé. Il n'y a pas d'Espresso Gate. Continuez à boire votre espresso en vous sentant d'ardent défenseur de la langue française. Ce sera la conclusion de cette épopée à l'italienne. OK. L'aide financière du gouvernement provincial, des restaurateurs qui trouvent que c'est long, qu'il y a des papiers à remplir, qu'il faut fournir bien des papiers. En même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu normal, là. On fait de l'aide financière, on fait des prêts, puis des prêts qui, entre guillemets, pourraient être oubliés, entre guillemets, là, effacés par le gouvernement ensuite.
C'est bon.
Fait que... Danny, allô, c'est toi?
Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Qu'en penses-tu?
Ben moi, je pense qu'on pèle par en avant. On a des gens qui sont fâchés, qui attendent, qui ont rempli des conditions. Les conditions changent avec les MRC. C'est un prêt, ce n'est pas un prêt. C'est des fausses solutions. Moi, j'ai l'impression qu'on pèle par en avant. Puis il y a des organisations qui sont capables de le supporter, qui vont être capables justement d'engranger un prêt comme ça, puis de prendre le risque de ne pas devoir le rembourser, qui ont des entreprises assez solides pour tenir. Après ça, il y en a un paquet d'autres qui ne se rendront pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prêts pour rembourser les taxes foncières, pour rembourser les créances qui sont encourues. Moi, je ne pense pas que le monde va être le même à la suite de tout ça. Puis, il n'y aura pas assez de place et de clients pour tous ces restaurants-là. Fait que c'est bien dommage. Je suis super triste. Mais mon industrie se fait frotter les oreilles. Puis là, en plus qu'on n'a pas les paiements qui sont acheminés, puis des gens qui attendent après ça, watch it bien dans une couple de mois comment ça va se passer. Il n'y aura pas de party de Noël. Ça va péter sur un chaud temps.
Ben oui, c'est sûr. Puis en même temps, tu sais, c'est plate à dire parce que dans ce dossier-là, là, de l'aide financière aux restaurateurs, il y a vraiment deux côtés à une médaille. Puis je comprends les deux bords, les deux parties. Tu sais, d'un côté, tu as un gouvernement qui veut s'assurer de donner l'argent aux gens qui en ont vraiment besoin. T'sais, c'est-à-dire, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui profitent du système, entre guillemets, qui se financent avec ça, qui fassent un peu n'importe quoi. Autrement dit, des gens qui n'auraient pas droit à cette aide-là. Puis de l'autre bord, ben, je comprends les gens qui ont besoin d'aide là, d'être vraiment exaspérés hein, de devoir attendre, de devoir remplir des papiers. Puis, tu sais, par rapport au formulaire, là, moi, j'ai entendu Fitzgibbon à ce sujet-là. Le formulaire, on nous a annoncé ces prêts-là, je pense, ça fait quelque chose comme un mois, je pense. Puis le formulaire est disponible seulement depuis peu. Je pense quelque chose comme la semaine passée. Là. Fait que, tu sais, il se déroule un méchant laps de temps entre l'annonce puis le moment où tu peux t'en revendiquer. Puis avec la paperasserie que tu dois fournir, ben ça allonge les délais. Puis pendant ce temps-là, ben les billes, il faut qu'ils continuent à rentrer. Je comprends. Les deux bars, je comprends.
Oui, mais si on est comme en phase terminale, tu sais, c'est dommage, mais l'industrie était malade avant que ça arrive, cette affaire-là.
Ouais.
Avant que la pandémie arrive, avant qu'il y ait quoi que ce soit, la business de la restauration, comme on la connaît, était déjà malade. On avait de la difficulté à recruter, les liquidités n'étaient pas au rendez-vous, les marges s'amincissent. On attendait après l'été pour se refaire les coffres. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, au mois de mars, une pandémie, tout s'écroule. Tu sais, si on était en temps de guerre, là, ce serait la même affaire. S'il y avait un crash boursier et une crise économique, plus de clients au rendez-vous, ce serait la même chose. Là, on est devant de l'intangible, devant une maladie. C'est la première fois que ça nous arrive. Les gouvernements en place décident de donner un coup de main. Ça arrive au compte-gouttes, mais au moins, il y a un petit peu d'aide, tu sais. Il y a un paquet de ces business-là qui ne se seraient probablement pas rendus s'ils n'étaient pas été du premier 40 000 $ qui a été versé auprès aux entreprises d'urgence.
OK, là, je vais dire quelque chose.
Une augmentation salariale de 70 %.
Ouais.
On ne serait pas là-dedans non plus parce qu'il y a un paquet de monde qui sont capables de faire des sous avec la subvention salariale de 70 % qui est en place, là.
OK, là, je pose une question peut-être un peu tendancieuse et de mauvaise foi, là, mais je la pose quand même parce que je pense qu'elle justine, puis j'en parlais avec François Lambert, là, tu sais, tu me parles des restaurants puis l'industrie de la restauration qui était peut-être un peu en crise avant la pandémie, là, donc des établissements qui étaient pas rentables pour plein de raisons, puis un peu à la manière du commerce au détail, est-ce que la pandémie est pas en train de faire un ménage parmi les commerces mal gérés, mal financés ou qui tout simplement répondent pas à une demande? Tu sais, à un moment donné, il y a un élagage naturel qui se fait et là, ce prêt-là, ben c'est bien plate, c'est le respirateur artificiel, mais anyway, ces endroits-là vont fermer parce que ça marche pas.
Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette industrie-là parce que c'était un rêve, qui n'était pas nécessairement du métier.
Ouais, le rêve du café, puis, le petit café du coin de rue.
Le rêve du café et puis de la chandelle de cette maison. Là, avec
le savon ou le chef.
Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, je respecte ça, les rêves, c'est le fun, mais une business, c'est un risque. Puis, ce que je trouve intéressant, j'espère qu'on va pouvoir saisir cette opportunité-là parce qu'elle est réelle. Est-ce qu'on peut élaguer le marché, puis arrêter de donner des permis à n'importe qui encore, puis d'arrêter cette roue sans fin de restaurateurs ou de commerçants qui sont disposables comme un vieux citron? Ça, ça profite à un paquet de monde. Ça profite aux propriétaires, aux vendeurs d'équipements, aux ingénieurs, aux architectes, aux banquiers, aux reprises. Puis après ça, ben les entrepreneurs qu'on est, on n'a aucune valeur à transiger. Notre permis ne nous appartient pas. Puis je me sens comme un vieux disque brisé. Mais si un opérateur débarque du système, ben donnons-nous une petite gêne avant d'en rembarquer d'autres. Puis peut-être que les permis vont être capables de se revendre.
Mais c'est pas Montréal. C'est pas Montréal qui a le plus haut taux de restaurants per capita. Tu sais, par habitant, là, je pense quelque chose comme 3 restaurants pour un habitant.
Ben oui.
On aurait peut-être commencé à se questionner là-dessus, tu sais. Je sais pas.
Ouais, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on finit toujours par dire, ben oui, mais c'est un luxe aller au restaurant, c'est une affaire de bourgeois. Ouais, mais Christy, si tel est le cas, ben comportons-nous de telle façon.
Mais là, on oublie tous les petits restaurants de quartier où les gens vont manger puis que ça coûte 10$ un menu du jour. Là. Ça existe encore. Là.
Ouais, mais est-ce qu'ils font de l'argent? Est-ce qu'ils
sont
peut-être troquer le marché, justement?
Ils servent beaucoup de choses congelées.
C'est vraiment bon parce que tout est payé depuis longtemps puis ils se disent, bon, ben j'ai une job, puis je vais faire 28 000 par année. Puis je vais manger à ma faim, puis tout ça. Puis tu sais, je veux pas être méprisant, là, c'est pas ça le cas. Mais tant qu'on ne se comportera pas comme une business réelle, puis un endroit où on peut faire des profits, bien, la restauration va toujours être boiteuse puis chialer comme on fait aujourd'hui. Donc, donnons-nous les conditions de pratiquer avec des prix qui sont réels, puis ça se passe par élaguer le marché. C'est ce qui arrive.
Bon, on va se parler roche de sucre. Hein? C'est l'Halloween qui arrive très, très bientôt. Je pense que c'est samedi. Et là, Roger Sugar se prépare pour un monde moins sucré, Danny.
Un monde moins sucré. Il y a une
un monde plate, donc.
Je pense que ça va être assez sucré, mais ça va être du sucre de synthèse.
Oh, oui.
C'est ce que le crystal meth est à la cocaïne, probablement.
Non, moi, j'aime ça, le sucre de synthèse, je te dirais ça.
Ah oui, t'es-tu une fan de saccharine, toi?
Ah, oh, je suis une fan de stevia, surtout.
Ah, de stevia. Moi, je crois que ce qu'on nous proposait dans l'article que j'ai lu ce matin, c'est qu'on est capable de modifier la nature, le produit de sucre, de couper en deux sa charge glycémique, sans nécessairement altérer ses propriétés. Parce que le sucre, oui, c'est un goût, mais c'est une composante chimique qui va aider à caraméliser des aliments. Il y a beaucoup d'éléments comme du caramel, mettons, on parle de liqueur brune, là, tu sais, comme une bonne boisson gazeuse brune. Ça, c'est un caramel qui va faire ça. Le pain, il n'est pas blanc, il n'est pas palette parce qu'il y a du caramel, il y a du malt qui est à l'intérieur. Donc, est-ce que les propriétés vont être les mêmes? Je sais pas comment ça va se comporter, puis personne veut nous dire le secret, donc c'est à suivre.
Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que contrairement à souvent, là, c'est pas une solution qui est présentée pour faire diminuer les coûts, t'sais, pour vendre moins cher ou pour garder le même prix d'un produit. C'est vraiment pour répondre à une tendance, à un besoin des consommateurs. On veut manger moins de sucre. On veut qu'il y ait moins de sucre caché. Puis la fameuse question de l'indice glycémique, là, je pense que c'est plus un secret pour personne que des aliments à indice glycémique élevé, c'est pas nécessairement la meilleure affaire pour notre santé et pour le poids, même si j'aime pas ça dire ça, mais c'est quand même la tendance populaire en ce moment. Donc c'est, ben oui, fait que c'est ça qui dont il est question ici. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, comme tu le dis, on perdra pas, en tout cas, je vais le croire quand je vais y avoir goûté, là, mais on ne perdrait pas le bon goût, entre guillemets, du sucre. Donc, pour moi, je vais t'avouer que je vais faire partie de la clientèle parce que moi, je suis la fille qui achète les bonbons, pas de sucre, puis plein d'affaires avec des sucres de substitution. Pour vrai, parce que le sucre, ça m'endort. C'est vraiment poche.
Ouais, mais c'est comme ça. Le sucre, ben, ça buzz. Puis, je veux pas.
Mais c'est vrai que c'est une drogue. Il y a plein d'études qui disent que c'est plus dur d'arrêter de manger du sucre que de faire de la drogue, puis je les crois. Plus t'en manges, plus t'en veux.
Oui, puis c'est des espèces de petits ups qui sont le fun, mais il y a des downs qui sont très réels.
Oui, il faut que j'arrête de boire du gourou.
le gourou a beaucoup moins de sucre quand tu prends la petite cacane blanche.
C'est ça, mais moi je prends la cacane blanche. On se reparle demain, Dani. On va faire des tests de sucre. Bye.